Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et soyez les bienvenus dans le 17e épisode de Fun for you. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast. Et cette semaine, on s'intéresse à l'alcoolisme. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille notre psychologue préférée, Pénélope, qui est avec moi en studio. Salut Pénélope.
Mais salut Simon, quel accueil.
Comment tu vas?
Mais très bien, et toi?
Eh bien écoute, ça va très très bien. Alors Pénélope, tu n'es pas sans savoir hein, que les fêtes de fin d'année approche à grands pas. Qui dit fête de fin d'année dit repas de fin d'année. Beaucoup manger, mais aussi parfois beaucoup boire. Et donc, on s'est dit qu'on allait s'intéresser à l'alcoolisme. Et finalement, Pénélope, l'alcoolisme, c'est quoi?
Alors, on est d'accord que là, tu parlais des fêtes de fin d'année, donc on pourrait se dire que pendant un repas, on va faire un petit peu d'excès au niveau de l'alcool. Dans notre société, il est clair que la consommation récréative d'alcool, c'est quand même assez courant. En tout cas, dans la civilisation occidentale, c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Et on ne peut pas considérer que ce soit une pathologie vraiment comme ça.
Donc, oui, c'est vrai parce qu'on a 2-3 repas, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, où on va peut-être boire un petit peu plus que ce qu'on devrait, qu'on parle d'alcoolisme.
Non, tout à fait, parce que l'ivresse simple, à certains moments, c'est pas une psychopathologie. Par contre, on a certaines circonstances qui peuvent interdire ou autoriser l'usage de l'alcool. Donc, par exemple, dans le cadre de la conduite, on n'a pas le droit de boire, ou dans le cadre, par exemple, d'une fête de fin d'année, à ce moment-là, l'alcool serait autorisé. Alors, si on définit l'alcoolisme, finalement, c'est quand même une conduite par rapport à l'alcool qui va être caractérisée par une perte de maîtrise de la consommation. Donc, si par exemple, tu consommes au moment des fêtes de fin d'année, voilà, tu vas avoir quelques repas et puis pendant une semaine, 2 semaines, tu vas pas consommer d'alcool, bien qu'on peut considérer qu'il y a aussi des moments où l'alcoolisme va se présenter en abus. Donc, on a l'alcoolisme plutôt constant, le fait de consommer tous les jours, et puis on va avoir de l'alcoolisme, par exemple, où une fois par semaine, tu vas être dans des abus très massifs d'alcool.
Ok, d'accord. Donc, je savais pas qu'on pouvait parler d'alcoolisme dans ce cas-là.
Oui, oui. Alors, normalement, il y a des chiffres. Si je me trompe pas, on est à 7 verres d'alcool pour une femme par semaine, 14 pour un homme.
Ok.
On n'est pas égaux.
Ah oui, on est du simple au double. C'est impressionnant,
Toi, tu peux boire beaucoup plus que moi. Et donc, c'est vrai que normalement, ça, c'est la moyenne. Mais c'est vrai que tu vas avoir des gens qui, une fois qu'ils commencent à boire, vont se retrouver dans une espèce de spirale où ils vont pas plus pouvoir s'arrêter. Et donc, là aussi, on pourrait parler de cette perte de maîtrise. Et donc, on pourrait commencer à parler d'alcoolisme. Le fait de boire, par exemple, un verre par soir. C'est vrai que si un soir, tu peux le sauter, mais on se rend compte, parfois, les gens disent non, je bois juste un verre, mais si on leur enlève le soir, ça peut commencer à poser problème. Donc, je pense que c'est quand même toujours un rapport de soi par rapport à l'alcool. Il faut être aussi honnête par rapport à sa consommation d'alcool. Je dis souvent, on ne peut pas demander à un alcoolique d'arrêter de boire s'il te dit qu'il ne boit pas. Donc, il faut d'abord qu'on admette qu'on est face à une problématique par rapport à l'alcool.
C'est parfois même le plus difficile, j'ai l'impression.
Vu en plus nos sociétés où il est normal de boire, je dis souvent, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas souvent proposer d'aller boire un verre. Donc on est quand même des sociétés où on est beaucoup autour de la table. Hein. Soit c'est on va manger un bout, on va boire un verre, on dit rarement, ce soir on se repart, jeu de société.
Oui, oui, et voilà. En plus on est dans des sociétés aussi où on nous invite de plus en plus à boire de plus en plus, j'ai l'impression. Je pense au baptême étudiant, je pense à tous ces jeux où il faut boire le plus sur une soirée. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, dans les soirées, ce genre de truc, c'était à qui boira le plus. C'était limite un jeu. C'est vraiment pas normal d'en arriver là.
C'est les pratiques de ce qu'on appelle de binge drinking, tu vois. Où là, alors en plus, je pense que chez les jeunes, ça peut être, étant donné le prix des consommations parfois à l'extérieur, dans les boîtes de nuit par exemple, on va avoir des jeunes qui vont s'alcooliser très très fort en début de soirée ne pas devoir aller acheter de l'alcool.
Dans les prés, ce genre de choses. Voilà. Ou alors il y a de plus en plus de boîtes de nuit aussi qui créent des happy hours dans les heures un peu creuses pour que les gens reçoivent 2 verres au lieu d'un et donc on a tendance à consommer certainement plus à ce moment-là aussi.
Ah oui, clairement. Après, j'aurais tendance à dire que l'alcoolisme, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et par contre, je trouve que ce qui a changé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention par rapport à l'alcoolisme, où on t'explique à quel point c'est négatif, c'est mauvais. Il y avait quand même avant l'idée qu'un verre de vin rouge par jour, c'était bon pour la santé. Alors non, clairement, c'est pas bon pour la santé. Alors boire un verre de temps en temps va pas nécessairement avoir des impacts catastrophiques, mais on peut très très bien vivre sans avoir jamais d'alcool dans sa vie.
Et j'ai l'impression aussi que je pense à des personnes qui vivent assez âgées âgées, par exemple, qui dépassent les 90 ans. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire, ben moi, j'ai encore ma grand-mère, et pourtant, elle boit sa bière tous les jours. Et pourtant, elle boit son verre de vin tous les jours. Comme si c'était quelque chose qui permettait de maintenir en vie.
Tout à fait. Alors, oui, il y a vraiment, mais il y a une vision très positive, hein, de l'alcool dans nos sociétés. Quand tu lèves ton verre et que tu trinques avec l'autre, tu lui souhaites une bonne santé. Tu dis santé. Or, c'est bien un truc qui est sûr, c'est que non, ça ne va pas avoir un impact positif sur ta santé. Après, c'est toujours à prendre avec une certaine modération. C'est vrai que si on boit un verre de temps en temps, a priori, il n'y a pas de grand risque, mais on peut prôner le sans-alcool sans aucun problème.
Justement, j'allais le dire, j'ai l'impression que de plus en plus dans les bars, etc., avant tu ne prenais pas d'alcool, tu avais juste les softs. Aujourd'hui, la carte est de plus en plus riche. C'est presque même plus un problème parce qu'il y a des fois, tu avais un petit peu honte de ne pas prendre d'alcool parce que tu es dans le mouvement, etc. Au final, tu peux avoir un verre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un verre d'alcool aujourd'hui.
Complètement.
Qui n'est pas du tout alcoolisé, finalement.
Écoute, moi, pour des raisons, je fais trop de fer, hein, petite histoire. Et donc, le foie métabolise le fer quand on boit de l'alcool, justement, enfin, un truc du genre, je ne suis pas médecin. Et donc, c'est vrai que ma généraliste m'a demandé de faire une période sans alcool pour voir si ça avait un impact sur mon fer. Et donc, j'ai effectivement testé plein de mocktails. Il y a même... moi, j'avais acheté un spritz sans alcool. Donc, c'est une marque anversoise, en plus. Donc, voilà. Et finalement, qui est très, très, très proche du spritz normal. Donc, il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui existent, qui n'étaient pas nécessairement le cas avant. Alors, tu avais peut-être un peu de bière sans alcool. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de bières existent sans alcool. Donc, je pense quand même qu'il y a une sensibilisation... plus importante au risque que l'alcool va créer.
Et concrètement, qu'est-ce qui peut se passer si on est dans des consommations d'alcool qui sont vraiment excessives ?
Alors, tu vas avoir différentes choses. Donc, par exemple, tu as l'ivresse pathologique, tu as le coma éthylique aussi. Et puis, on parle de sevrage, mais quand tu consommes de l'alcool tous les jours, tu as aussi des sevrages qui se font dès que tu arrêtes l'alcool. Donc là, je ne parle pas d'un sevrage que tu ferais en hospitalier. Donc si je reviens sur, par exemple, l'ivresse pathologique, donc là, on va vraiment être dans des situations où le patient va être en déconnexion avec la situation réelle. On peut avoir des émotions excessives qui vont se présenter, beaucoup de colère, des angoisses ou des crises au niveau moteur, donc une espèce d'excitation comme ça, tu vois, de la violence. Donc ces symptômes-là, normalement, vont disparaître une fois que l'ivresse va diminuer. Alors, il n'y a pas vraiment de traitement. Hein. Éventuellement, on va te sédater pour calmer un petit peu tout ça. Quand on est vraiment dans des consommations qui sont extrêmement massives, et donc là, je parlais tout à l'heure, tu vois, du binge drinking et du fait que certains vont s'alcooliser très très fort, eh ben, il y a un risque de coma éthylique. Alors, en général, on est à un taux d'alcoolémie qui va dépasser 3 grammes par litre, en sachant que, par exemple, le seuil légal pour la conduite, on est, je crois, à 0,5. Je pense même si on n'est pas passé à 0,3 grammes par litre. Donc, tu vois un petit peu le step qui est entre les deux. Et donc, le risque, c'est que le patient fasse une dépression respiratoire, soit en hypothermie, de l'hypoglycémie aussi. Donc, il y a plein de risques qui sont présents. Et donc, en général, là, il n'y a pas de choix. On part à l'hospitalisation. Et donc, si on a là, je vais vraiment parler, parce que les deux situations dont je viens de parler, ça peut être des consommations d'alcool qui sont occasionnelles, mais qui ont été très importantes. On peut aussi avoir chez des patients qui sont dans un alcoolisme chronique, donc ils consomment tous les jours de l'alcool, dans les moments où il n'y a pas d'alcool, un sevrage qui va se présenter. Et donc, ça va se manifester en général par des tremblements, des nausées, des vomissements, de l'anxiété, de l'insomnie, la transpiration, la tachycardie, et le risque aussi, c'est la crise d'épilepsie. Donc là, on est vraiment chez un patient qui va être physiquement dépendant. Ça va arriver assez rapidement, donc dans les 8 à 24 heures qui vont suivre la dernière ingestion d'alcool. Et là, il est vraiment important de mettre en place un traitement. Parce que le risque ultime à ce moment-là, c'est éventuellement le délirium tremens et puis éventuellement le décès. Donc on peut décéder d'un sevrage brutal d'alcool. Donc c'est vrai que souvent, je pense que quand j'ai rencontré ça plusieurs fois dans ma pratique, des gens qui ont un proche qui est alcoolique et qui se disent on va l'enfermer, on va lui enlever tout l'alcool et puis ça va aller.
C'est pas la solution.
Ah non, c'est certainement pas la solution parce que c'est un des sevrages où les risques pour la vie sont importants. Et donc c'est vraiment des sevrages qui doit se faire de manière encadrée et en général où il y a une substitution avec une médication pour pouvoir progressivement diminuer la médication. Donc attention aux sevrages, on dit les sevrages blocs, hein. Voilà, je buvais 3 bouteilles par jour depuis 3 ans et puis là du jour au lendemain j'arrête l'alcool. Donc là il y a vraiment un risque. Et quand on arrive au délirium tremens, donc je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est.
Mais pas vraiment, je veux dire.
Ça se présente en général dans 5% des sevrages alcooliques. Et en général, on va avoir ça vraiment chez des alcooliques qui sont, on va dire, confirmés. Hein. Il y a eu des années de pratique d'alcool derrière. Et donc, on a un sevrage qui va se faire de manière brutale. Et tout d'un coup, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître, des hallucinations visuelles. Donc, tu vois, cette sensation d'avoir des petites bêtes sur son corps, des araignées, enfin, ce genre de choses. Il peut y avoir des hallucinations auditives avec des cris, des ordres qui se présentent et une grande agitation du patient. Alors, insomnie complète, donc grande agitation, des tremblements qui sont vraiment très importants, perte d'équilibre, des chutes, et alors de l'hyperthermie, donc à ce moment-là, on est dans l'autre versant, une grande déshydratation. Et donc là, il faut immédiatement mettre en place un traitement. Dans les contextes d'alcool, on met souvent de la vitamine B, puisque l'alcool détruit la vitamine B, et que la vitamine B est très importante au niveau neurologique. On hydrate de manière très importante, et alors on sédate, hein, comme je le disais, on casse un peu ce qui se passe avec des médicaments qui vont pouvoir compenser finalement le manque d'alcool. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Mais c'est très typique, ces petites bêtes sur le corps, c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique du délirium tremens. Mais donc il y a un risque de décès dans le délirium tremens. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère. Alors un autre syndrome qui apparaît souvent dans le cadre de l'alcoolisme, c'est le syndrome de Korsakoff. Et donc là, on a une atteinte au niveau de la mémoire. Donc la fixation au niveau de la mémoire va pas se faire. Alors ça arrive évidemment après des années d'intoxication alcoolique. Hein. Et donc tout ce qui va être entérograde, donc tout ce qui est qui était juste avant, va disparaître. Les patients vont oublier. On peut avoir des désorientations, des fausses croyances, des fausses reconnaissances, des fabulations. Et donc on sait que là, c'est lié à une carence de vitamine B1. Donc très typique de l'alcoolisme, parce qu'il y a une moins bonne capacité à l'absorption. Vitamine B est quand même très typique de la viande rouge, hein, c'est là-dedans que tu vas la trouver. Et donc, on a une détérioration cérébrale qui arrive, et ça, en général, on ne sait pas revenir en arrière. Donc aussi, à être vigilant, en général, la plupart des patients alcooliques vont être complémentés à la vitamine B. Et donc, il y a plein de complications qui vont arriver, donc on peut avoir des problèmes au niveau des membres inférieurs, comme des anesthésies, des brûlures, des paralysies, et on peut aller jusqu'à par exemple le syndrome de Wernicke, où là on va avoir de la confusion mentale, ce genre de choses. Et donc ça, en général, c'est pas réversible, donc faut quand même aussi être vigilant quand il y a de l'alcool à envisager d'avoir un complément vitamine B. Tout ça doit se faire normalement quand même avec un médecin, hein. On peut évidemment aller acheter de la vitamine B de manière normale, mais je pense qu'avoir... Parce que trop de vitamine B, c'est pas bon non plus.
Hein, voilà. Oui. L'excès
donc,
nuit en tout.
Il y a des vitamines qui sont moins problématiques que d'autres, mais la vitamine B,
oui, parce qu'on
elle
peut
est
en
neurotoxique.
Acheter des vitamines pour l'hiver, par exemple. Il y a des petits cachets qui reprennent un peu tout. On manque tous de plein de choses pendant l'hiver et ça s'achète assez facilement en pharmacie.
Oui, et je pense que les gens parfois se complémentent parce que l'idée c'est d'avoir un bon dosage de vitamines.
Oui, oui,
et donc
oui.
Normalement tu dois doser tes vitamines. Alors je pense qu'en Belgique par exemple une vitamine qu'on peut prendre allègrement autant qu'on veut c'est la vitamine D.
Oui, oui.
On
oui.
est tous en manque de vitamine
Surtout
D.
Surtout durant cette période de l'année.
Voilà,
hein,
parce que ça vient avec le soleil. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours important. Alors je pense aussi que imaginer que personne n'a vu qu'on était alcoolique, ça se voit dans les prises de sang. Donc c'est important à ce moment-là. Je pense que le généraliste peut être vraiment une porte d'entrée pour discuter de cette problématique-là et de voir les solutions qui peuvent exister. Donc voilà, c'est la dépendance à l'alcool, évidemment, là on rentre, là je vous ai un peu donné les risques qui pouvaient arriver, les situations qui peuvent se présenter face à quelque chose qui est vraiment chronique. Mais quand on parle de la dépendance à l'alcool, on parle vraiment d'un individu dont l'intégrité corporelle, physique et sociale va être altérée par une consommation régulière d'alcool. Et donc, comme je le disais, hein, elle peut être soit continue, donc tous les jours, soit discontinue, mais qui va revenir régulièrement. Donc j'abuse tous les samedis ou tous les vendredis soirs parce que j'ai eu une sortie, j'abuse de manière très importante d'alcool. Et donc là, on peut rentrer dans une dépendance physique. C'est une des caractéristiques de ce produit, comme l'héroïne par exemple, là où la cocaïne va pas avoir cette dépendance physique, elle est plutôt dans une dépendance psychologique. Et donc ici, on est dans une dépendance physique, d'où les risques au moment des sevrages. Et donc, c'est d'ailleurs quelque chose qui va être inscrit dans le fameux DSM, hein, le livre des maladies psychiatriques, où on va avoir cette fusion entre la dépendance physique et psychique, mais dans l'alcool, la dépendance physique est vraiment très importante et il faut y faire très attention. Ça va plus vite qu'on ne le croit, surtout dans nos sociétés où justement l'alcool a cette vision assez positive de l'alcool et où je suis d'accord avec toi, hein, dans certaines situations tu dis ah ben moi je bois pas, mais allez bois quand même un verre.
Ouais, juste un.
Voilà, on pousse quand même très fort l'autre à boire. Alors, je me demande toujours si les gens qui font ça sont pas des gens qui eux-mêmes ont un problème avec l'alcool. Et donc, voir l'autre arrêter de boire, ça peut poser question sur sa propre consommation. On n'a pas toujours envie de se la poser parce qu'on peut se sentir un peu à part peut-être des autres. Alors, c'est sûr que quand on ne boit pas du tout, j'ai testé pour vous, dans une soirée où les gens boivent beaucoup, il y a un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi?
Je n'ai que des zombies autour de moi. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Il y a un moment, tu t'ennuies un peu. Tu te rends compte que les gens sont très très cons, hein. Je pense que
d'autant plus qu'on devient très con. Hein, ouais.
Voilà, je vous rassure, hein, j'ai été très conne aussi moi dans ma vie à certains moments avec l'alcool. Et donc je pense que se rendre compte de tout ça, c'est quand même important. Se rendre compte aussi de toutes les complications physiques que ça va amener, hein, le foie, l'estomac, le pancréas, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. En fait, tout ça va être impacté par l'alcool. Donc c'est vraiment un produit qui est en plus très neurotoxique. Je pense que c'est un des produits pour nous, en tout cas, qui travaillons dans le secteur du soin et dans le sevrage en particulier, où on sait que c'est un des produits qu'on enlève en premier, parce qu'il a vraiment des impacts très importants.
Mais je pense que le souci avec l'alcool aussi, c'est que c'est un des produits qui est les plus facilement accessible, parce qu'il y a des règlements, etc., pour l'achat dans des supermarchés, mais et encore, est-ce que c'est vraiment contrôlé? Je ne sais pas. Mais même dans un bar, même dans une soirée, c'est assez facile de s'en procurer, contrairement à d'autres substances, on ne sait pas trop où aller, l'alcool, on en trouve partout.
Alors, tu as le tabac aussi, évidemment.
C'est vrai.
Une des grosses différences, alors je ne dis pas que le tabac est bon pour la santé, certainement pas, mais par contre, au niveau psychique, il ne va pas modifier ton comportement. Ce n'est pas pour rien que tu peux fumer en conduisant et que tu ne peux pas boire en conduisant. Et donc, il y a deux drogues, je dirais, qui sont mises sur le marché de manière légale. Alors, il y en a une autre, hein, alors ça dépend, parfois il faut une ordonnance, mais il y a certains médicaments aussi dont on parle parfois un peu moins, surtout que je pense que la Belgique est un très gros prescripteur de tout ce qui est benzodiazépines. Et donc, benzodiazépines qui sont les médicaments qu'on donne dans le cadre de sevrage d'alcool. Ça vous donne une idée. En gros, on est vraiment dans le même type de produit, même si c'est sous forme différente. Donc voilà, je pense que la dépendance est très présente dans nos sociétés quand même. Hein. Alors t'as la dépendance au jeu, t'as des dépendances à tout, mais c'est vrai que l'alcool, je trouve que au niveau de l'impact global, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 négatif.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prise en charge pour tout ce qui est alcoolisme?
Et donc la première, parce que il y a aussi cette vision, je voudrais quand même préciser, cette vision parfois un peu négative qu'on a. Donc, faut savoir que, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, bah, t'as qu'à arrêter, voilà, comme si c'était facile. Donc, je pense que c'est quand même très important de voir à quel point ça peut être compliqué pour la personne alcoolique d'arrêter de boire. Mais il faut aussi que cette personne, comme je le disais plus tôt, puisse reconnaître cette dépendance et dire qu'elle est demandeuse d'une aide. Ça peut être éventuellement un proche qui va alerter ou ça peut être la personne elle-même. Mais c'est vraiment important d'abord de se rendre compte qu'il y a une problématique à ce niveau-là et pour un proche de pouvoir écouter, de pouvoir soutenir, éventuellement d'accompagner dans la démarche, même si c'est une démarche qui doit venir de la personne alcoolique. Donc, on peut vraiment être dans l'aide, mais il faut que cette démarche soit faite par la personne elle-même. On peut avoir différentes alternatives. Alors, ça va dépendre, par exemple, du degré de dépendance qu'on va avoir. Hein, si on est plutôt dans une dépendance psychologique, donc avec ce côté un peu ritualisé de l'alcool, mais où la dépendance physique n'est pas encore installée, ou s'il y a une dépendance physique. Voir aussi dans quelle mesure c'est très présent dans la famille, ou en tout cas dans le cercle proche de la personne. Donc il y a des familles par exemple où l'alcool c'est une évidence, on ne fait rien sans alcool. Donc c'est sûr que avoir un traitement sur des personnes comme ça, ça va être plus compliqué puisqu'ils sont confrontés à l'alcool.
Il y a plus de tentations, on va dire.
Voilà, on va pas leur dire, bah, écoutez, parlez plus à vos parents, parlez plus à vos frères et sœurs, parlez plus à personne, restez chez vous et recréez-vous une nouvelle famille. C'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi très important. Alors, la prise en charge au niveau des alcooliques, c'est une prise en charge qui va prendre du temps. On sait que la rechute va être souvent présente, c'est une étape possible et que c'est parfois, ça fait partie de cette évolution et du processus de changement. Et ça ne doit pas être vécu non plus comme un échec. Parce que je dis souvent à mes patients, le produit, il est fort. Donc, il rappelle très fort. Et donc, se dire aussi qu'on n'est pas tout seul à décider, mais que le produit vient nous appeler. Ce qui est important, c'est cette motivation quand même. Alors, pas motivation, j'ai qu'à arrêter, mais une motivation à s'engager dans ce processus pour pouvoir modifier ce rapport à l'alcool, d'impliquer la famille éventuellement pour qui participent à ce processus. Donc, je disais, par exemple, ben, on évite de proposer de l'alcool. Je sais pas, moi, j'aurais un ami alcoolique, je lui dirais pas quand il vient, je te sers un verre, éventuellement une bonne bouteille au frigo. Non, à ce moment-là, de peut-être décider soi-même, en étant proche, de ne pas consommer d'alcool, en présence de l'alcoolique.
Oui, parce que c'est pas très sympa de boire un verre d'alcool devant lui.
Voilà, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'est pas alcoolique, mais qui décide de plus boire d'alcool pour des raisons autres, c'est pas grave. Mais dans ce cadre-là, c'est vraiment aller tendre le produit sous le nez. Bon, je veux dire, surtout quand on est dans les débuts de l'arrêt de l'alcool, c'est d'autant plus difficile. Et puis de mettre en place un suivi qui peut être fait avec un professionnel à ce moment-là. Et alors, on peut définir les différents types de modalités. Donc, comme tu sais, moi, je travaille dans une unité de sevrage, plutôt toxicomane, mais l'unité d'à côté, c'est des unités de sevrage alcoolique. On est sur une base d'hospitalisation de 3 semaines avec une mise en place d'une médication. Donc, c'est des benzodiazépines qu'on va diminuer progressivement pour amener le patient à zéro pendant l'hospitalisation et le garder un certain temps pour qu'à la sortie, il n'y ait ni médication, enfin de ce type-là en tout cas, ni médication, ni alcool. Maintenant, les hospites sont courtes, 3 semaines, 1 mois, c'est difficile de tenir dans le temps et donc il y a des choses comme les alcooliques anonymes qui existent, il y a des thérapeutes qui sont spécialisés sur la question, mais donc de pouvoir continuer à travailler là-dessus, voir si on est dans une problématique qui dure depuis très longtemps, il y a des post-cures, donc c'est vraiment des centres qui prennent les patients après le sevrage et qui travaillent toutes ces dépendances psychologiques pour se détacher de tous les rituels, parce que on est quand même des êtres ultra ritualisés. Donc si tous les soirs, j'avais des patients comme ça, c'était un couple, tous les soirs au moment de préparer à manger, on buvait la première bière, donc c'était très ritualisé. Donc il faut arriver à enlever cette première bière, alors que tu sais que tous les jours, au même moment, tu vas ouvrir ton frigo pour prendre ta bière.
Quand tu le fais pas, t'as l'impression qu'il te manque un truc finalement.
Exactement. Et donc ça, c'est aussi des choses qui sont vraiment à travailler. Il y a certains médicaments aussi qui existent, qui permettent de contenir la consommation d'alcool. Certains qui te rendent malade, vraiment. Donc si tu ingères de l'alcool, tu es vraiment dans quelque chose d'insupportable au niveau somatique, mais c'est dangereux. Il faut faire attention.
Ah ouais.
Bon, c'est des choses qui doivent être vraiment aussi pensées là avec un médecin. T'as certains médicaments qui peuvent aider au craving. Le craving, c'est cette envie qu'on va avoir de consommer, donc ils peuvent un peu diminuer ça. Et puis donc, comme je disais, des groupes d'entête comme les alcooliques anonymes, il y en a d'autres qui existent, qui peuvent même accompagner les proches dans cette dynamique-là.
Avant de se quitter, Pénélope, est-ce qu'on a des chiffres par rapport du coup à l'alcoolisme ?
Oui, alors là, toujours Cienciano, qui est quand même ceux qui font toutes les enquêtes de santé, considère que dans la population belge, on aurait 14% de la population qui serait dans une consommation à risque. Alors là où on a vraiment un usage qui serait problématique ou une dépendance, on est à peu près à 5% de la population. On voit qu'on est en fréquence, c'est 2 fois plus risqué pour les hommes que pour les femmes. Les âges les plus à risque, c'est 18-45 ans. Alors, pour vous donner une idée du nombre de décès qu'on va avoir, on compte plus ou moins 2000 décès par an. Lié à l'alcool, alors indirectement à l'alcool, hein, mais
oui.
Lié à l'alcool. Les accidents de la route, on est autour de 10%. Les hospitalisations qu'on va avoir, c'est plus ou moins 10 000 hospitalisations par an liées à l'alcool. Et évidemment, c'est quelque chose qui coûte énormément à la société belge. Donc voilà, c'est quand même un problème qui est très important, qui est très récurrent qu'on a peut-être un peu vite tendance à minimiser. Là où si les gens te disent ah, « mais je consomme de l'héroïne », on fait « ah,
oui,
mon Dieu
oui, !»
Voilà. Et là où parfois l'héroïne, alors je valide pas l'héroïne, hein, soyons clairs, mais l'héroïne peut avoir beaucoup moins de conséquences physiques sur le corps, au niveau somatique, que l'alcool peut en avoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très banalisé, mais qui est loin d'être banal.
On vous souhaite malgré tout de belles fêtes de fin d'année avec un petit verre de temps en temps, ça ne fait pas de mal, un ou deux, ou un petit mocktail, hein, on en parlait tout à l'heure, ils sont de,
ouais, il y en a des sympas.
De très bonne qualité. Tu m'as fait goûter ton petit Aperol Spritz la dernière fois sans alcool et à vrai dire, tu m'aurais dit que c'était un spritz normal, j'aurais même pas remarqué la différence. Donc voilà, belle fête de fin d'année à vous, avec modération toujours, et puis boire ou conduire, il faut choisir, on le rappelle. Voilà, faites votre choix. Merci beaucoup Pénélope en tout cas.
Mais avec plaisir et passez de bonnes fêtes.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.